Vous écoutez France Culture.
Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. C'est le début ce lundi d'une semaine sur le stoïcisme dans les nouveaux chemins de la connaissance. Demain, mardi, nous recevrons Frédéric Ildefonse qui nous parlera de l'ancien stoïcisme. Mercredi, c'est Jean-François Balaudet qui vous parlera de la différence entre épicurisme et stoïcisme. Jeudi, Thomas Benatouil reviendra pour vous sur l'empereur Marc Aurèle et l'esclave Épictète qui ne diffèrent qu'en cela. Enfin, vendredi, c'est des stoïciens et de Spinoza que nous parlerons avec Pierre-François Moreau, histoire de revenir sur l'identification parfois hâtive de l'éthique de Spinoza au principe du stoïcisme, en particulier pour ce qui concerne la question du suicide. Mais aujourd'hui, pour commencer la semaine, contrairement à ce qui vous a été annoncé, c'est exceptionnellement et bien malgré nous, à la dernière minute, une rediffusion que vous propose les nouveaux chemins de la connaissance, une rediffusion de l'émission Commentaire dans les Vendredis de la Philo, l'émission en date du 2 juin 2006, où j'étais revenu en compagnie d'Emmanuel Naya sur le texte magnifique de Sénèque le stoïcien, intitulé « De la brièveté de la vie ».
Nous voyons que tu es parvenu au point ultime de l'existence humaine. Tu portes la marque de la 100e année, ou plus. Allons, rappelle ton âge pour en faire le décompte. Compte en le soustrayant à ce temps tout ce qu'un créancier, tout ce qu'une maîtresse, tout ce qu'un roi, tout ce qu'un client t'a arraché, tout comme un différend conjugal, la punition des esclaves, les allées et venues par la ville pour remplir des obligations. Ajoute les maladies que nous fabriquons de nos propres mains. Ajoute aussi ce qui reste inutilisé. Tu verras que tu as moins d'années que tu n'en comptes. Remets-toi en mémoire quand tu as pris une décision assurée. Combien de jours se sont déroulés comme tu l'avais projeté. Quand tu as eu l'usage de toi-même à ta disposition. Quand ton visage a gardé sa contenance. Quand ton âme a été intrépide. Quelle œuvre as-tu accomplie au cours d'une si longue durée? Combien de gens ont pillé ta vie sans que tu sentes ce que tu perdais. Tous ceux dont t'as dépossédé une vaine douleur, une sotte joie, un avide désir, une conversation flatteuse. Combien ce qu'on t'a laissé de toi-même est ténu. Tu comprendras que tu meurs prématurément.
De même que, pour ne pas regarder ce qu'ils ont sous les yeux, les hommes ont le choix soit de regarder ailleurs, soit tout simplement de fermer les yeux. De même, il existe deux grandes manières de se divertir, c'est-à-dire d'oublier qu'on va mourir, la religion d'un côté et l'hédonisme de l'autre, Dieu ou le plaisir. La première forme du divertissement, du refus de la mort, passe par l'amour véritable, qui, aux yeux du christianisme, depuis Platon, suppose qu'on ne s'attache pas au corps périssable de celui ou celle qu'on aime, mais à la beauté immortelle dont il n'est censément que l'expression provisoire. Le divertissement consiste ici, paradoxalement, dans le refus même de s'amuser. La réalité, c'est-à-dire l'éphémère, ne vaut pas le coup. L'homme est ce drôle d'animal, tantôt inquiet, qui regarde ailleurs quand le bonheur est là. Le divertissement, ou religion, fait en l'occurrence comme si la mort était une affaire si grave qu'il faille à tout prix inventer le remède de cheval d'une vie éternelle. Bref, plutôt lever les yeux au ciel que s'envoyer en l'air, et il faut être fou pour être aussi sage. Sous une seconde forme, plus subtile mais non moins délirante, le divertissement, autrement appelé cette fois-ci hédonisme, consiste non plus à surmonter la mort, mais à profiter de la vie, à jouir du présent, comme si la vie était un gros gâteau dont il s'agirait de manger la plus grande part. Après l'homme chaste qui se punit d'être mortel en se privant du plaisir, voici l'homme qui veut jouir parce que le temps presse. Fini le paradis, adieu l'au-delà, bonjour le septième ciel. C'est le divertissement de l'homme qui, refusant tête haute la promesse d'une vie après la mort, se persuade qu'en conséquence il est lucide, qu'il est de ceux qui regardent la mort en face, sans voir que c'est là justement une façon comme une autre d'oublier qu'il va mourir. Tel un fumeur qui en grille une pour célébrer l'arrêt de sa tabagie, la téléologie hédoniste remplace le divin par le plaisir, dont elle fait indûment une fin en soi. Entre celui qui cherche un sens dans un ciel vide et celui qui a pour seul but de jouir, il n'y a qu'une différence de degré. Certains, sachant la vie courte, se donnent pour seul programme d'en profiter. D'autres, espérant le paradis, se privent de joie avant de mourir, chacun son truc. Mais l'ivresse du plaisir, ou l'opium de la vie éternelle, sont deux drogues dures qui mettent l'hédoniste et le chrétien en état de manque. Tous deux, mais nous tous, font ce qu'ils peuvent. Ils ont en commun d'ignorer tous les jours que, comme son nom l'indique, le néant n'existe pas et que par conséquent le divertissement est un faux problème. Car, comme l'enseigne Sénèque dans le traité de la brièveté de la vie est peut-être brève, mais elle est infinie quand on ne la passe pas à lutter contre des moulins à vent. Notre existence offre, dit-il, une vaste étendue à celui qui sait bien en disposer. Nous n'avons pas reçu une vie brève, mais nous nous la sommes faite, et nous n'en avons pas été dépourvus, mais prodigues. En d'autres termes, le temps passe, bien sûr, mais rien ne presse, il faut prendre son temps. Non seulement il est vain de fuir ce à quoi nul n'échappe, comme la mort, mais ce serait là surtout confondre la liberté avec l'aptitude introuvable à faire ce qu'on veut. La liberté, la vraie selon les stoïciens, commence par le courage d'être humble et de renoncer à ce qui ne dépend pas de soi. L'insensé qui dit non, comme tout le monde, aux événements qui se passent de lui, est beaucoup moins libre que le sage qui dit oui, comme l'y invite le monde tel qu'il est, à la façon dont les choses passent et se passent. De sorte qu'il est aussi contradictoire de fuir le plaisir ou l'au-delà que de les rechercher pour eux-mêmes. Ils ne sont, dans le meilleur des cas, que des vertus collatérales de la seule connaissance qui vaille, le savoir-vivre. C'est donc de la brièveté de la vie, le beau texte de Sénèque, que nous allons parler aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Naya, qui vient de faire paraître une nouvelle version traduite et commentée du traité de Sénèque aux éditions Ellipse.
Nous n'avons pas reçu une vie brève, mais nous nous la sommes faite. Et nous n'en avons pas été dépourvus, mais prodigues. De même que des richesses magnifiques et royales, lorsqu'elles tombent aux mains d'un mauvais maître, sont dissipées en un instant, et qu'au contraire, des richesses, fussent-elles modérées, croissent avantageusement si on les a transmises à un bon gardien, de même notre existence offre une vaste étendue à celui qui sait bien en disposer.
L'impression première, quand on lit ce texte, quand on l'ouvre, qu'on s'y plonge sans a priori, c'est celui d'une certaine sérénité. Et pourtant, il décrit les travers de l'humain et les agitations humaines, mais l'atmosphère générale est plutôt sereine, non ?
Oui, tout à fait. C'est un texte assez ambigu de ce point de vue, puisqu'il y a de très longs passages satiriques tout de même.
Emmanuel Naya.
Qui pointent les travers quotidiens d'une humanité jetée dans une poursuite effrénée du futur. Et pourtant, je crois que c'est une des caractéristiques des traités de Sénèque. Et de ce point de vue-là, c'est à mettre en relation bien sûr avec son ancrage stoïcien. La parole philosophique doit être une parole coupée de la passion. Vraiment, faire parler la nature, c'est faire parler la raison.
Quand bien même elle se donnerait la passion pour objet.
Tout à fait, exactement. Arriver à répondre à ces détracteurs qui aboient contre vous, sans pour autant se prononcer contre eux comme un roquet, arriver à réfuter les gens en douceur, c'est très important. Pourtant, le but, il est vraiment protreptique, il s'agit vraiment de convertir les gens.
Oui, protreptique, c'est ça, c'est ce voilà. Qui invite à la conversion.
C'est ce qui invite à la conversion. Il faut retourner la personne de l'intérieur. Et ce texte, même s'il est effectivement très, très doux, très lisse, cherche tout de même à provoquer un certain dégoût, hein, à force de peindre les travers qui sont les nôtres, peut-être provoquer une certaine nausée, jouer peut-être sur ces passions qui sont les nôtres et qui nous feront désirer de rentrer dans un autre régime.
L'un est pris par une insatiable cupidité, un autre par une assiduité laborieuse à des travaux superflus. Un autre est imbibé de vin, un autre est plongé dans la torpeur de l'inertie, un autre est exténué par une ambition toujours suspendue au jugement d'autrui, un autre est entraîné à travers toutes les terres et toutes les mers par la passion effrénée et inconsidérée du commerce dans l'espoir du gain. Il en est d'autres que la passion guerrière tourmente, incessamment tournée vers les dangers qui leur sont étrangers ou angoissée par ceux qui les concernent. Il en est enfin que l'ingrat culte de ses supérieurs exténue dans une servitude volontaire.
Ce qui frappe également dans ce texte, c'est sa brièveté. Or, c'est un texte qui, comme par hasard, s'intitule « De la brièveté de la vie ». C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est comme s'il avait mimé en concision la ténuité de l'objet qu'il se donne. Or, qu'est-ce qu'on découvre ? Mais à la première page, que nous ne disposons pas d'une courte durée. mais plutôt que nous en avons beaucoup perdu. En d'autres termes, certaines vies sont courtes, d'autres ne le sont pas, et pourtant, nous vivons le même nombre d'années. Alors, à quoi ça tient ? À quoi tient la brièveté de la vie ?
Alors, peut-être une première réponse à cette brièveté du texte, hein, comparée à la brièveté de la vie. Effectivement, pour Sénèque, j'ai bien l'impression que la richesse et notre compréhension du monde ne se joue pas dans l'étendue, mais véritablement dans la ponctualité. Hein. L'entrée dans le temps, c'est l'entrée dans un instant présent, donc dans quelque chose de véritablement court.
En vocabulaire bergsonien, par exemple, on pourrait dire que ce n'est pas une affaire de quantité, mais une affaire de qualité.
C'est une affaire de qualité et une affaire d'approfondissement. Donc effectivement, à texte bref, il pourra y avoir des lectures brèves qui n'auront peut-être pas grand intérêt. Et je pense que ce texte nous invite à véritablement approfondir en qualité notre lecture. Donc, à texte bref, il faudra une lecture, elle, certainement étendue, hein, approfondie. Ça, c'est,
Alors, il dit, nous n'avons pas reçu une vie brève, mais nous nous la sommes faite. Et nous n'en avons pas été dépourvus, mais prodigues. Donc finalement, ce qu'enseigne la brièveté de la vie, c'est que à qui sait vivre, et on va voir à quelles conditions on sait vivre et que ça n'est pas donné à tout le monde, à qui sait vivre, la vie est longue.
Exactement.
La vie est même démesurée.
Tout à fait. La vie est démesurée et elle peut même être étendue jusqu'à l'infini, hein, jusqu'à cette durée quasi divine qui englobe le passé et le futur. On aura certainement l'occasion de...
Oui, il dit « Notre existence offre une vaste étendue à celui qui sait bien en disposer ». Et un peu plus loin, après avoir décrit un passage sur lequel on va revenir, un passage très pascalien, les hommes qui se divertissent finalement, qui font des choses et d'autres, et qui perdent leur temps, il dit, parlant de cela, que ça n'est pas la vie, mais ça n'est que du temps.
Voilà. Il y a une distinction assez fondamentale dans ce traité entre vie et existence, entre simple temps, hein, la eum, et ce qu'on pourrait appeler la vie elle-même. Or, il ne s'agit pas d'une différence de qualité extrinsèque, mais véritablement d'une différence d'expérience. Et nous avons toute notre responsabilité dans la fondation de cette expérience. Hein. Si ce n'est pas une donnée objective de la nature, le temps, la vie, c'est vraiment quelque chose qui dépend de notre propre action. De là, l'erreur des philosophes et l'erreur des physiologues, ces soi-disant spécialistes de la nature, qui pensent que, objectivement, l'existence de l'homme est brève en comparaison d'eux, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une manière d'aborder le problème, de traiter sa propre existence.
Car l'existence est à elle-même, d'une certaine façon, sa propre fin. Le point de comparaison qu'on se donne, si on se donne un point de comparaison cosmique, on peut considérer qu'effectivement, l'existence n'a pas de densité, n'a pas de longueur, enfin, que l'existence est dérisoire. Mais ce caractère dérisoire de l'existence, rapporté justement à l'existence elle-même et à l'usage qu'on en fait, devient potentiellement infini.
Potentiellement infini.
Tu pourras bien m'émunérer les cupides, les colériques, ceux qui s'adonnent à d'injustes haines ou aux guerres. Tous ces individus agissent mal avec virilité. Épluche complètement l'emploi du temps de ces gens-là. Regarde tout le temps qu'ils passent à calculer, à monter des traquenards, à craindre, à prodiguer des égards, à en recevoir. Combien les accaparent leurs engagements et ceux des autres, mais aussi leurs banquets qui sont désormais de véritables obligations. Tu verras comment ni leurs mots, ni leurs biens ne les laissent respirer. Rien n'est moins le fait d'un homme occupé que de vivre. Vivre, il faut l'apprendre toute la vie. Et, chose dont tu t'étonneras peut-être davantage, c'est toute la vie qu'il faut apprendre à mourir.
Ce portrait des hommes qui se divertissent, à quel objet ? Parce qu'on est ici dans l'exorde, ce qu'on appelle dans un discours latin l'exorde, c'est-à-dire le début du discours. Alors, quelle est la fonction de cette phénoménologie des hommes qui font n'importe quoi ?
Alors, la fonction, effectivement, elle est à la fois rhétorique, à la fois philosophique. Philosophique dans la mesure où le stoïcisme dans son ensemble est une philosophie aristocratique. Il ne s'agit pas du tout de favoriser un accès, on pourrait dire, commun à la sagesse, qui serait ouvert à tous. Il faut toujours savoir se séparer de la foule.
Il le dit à la fin du texte. Et il le disait au début d'un autre traité qui était le traité de la vie heureuse. Il disait ceci dans la vie heureuse. Il fallait ne pas suivre comme un troupeau la foule qui nous précède. Et un peu plus loin, il dit la preuve du pire, c'est la foule.
Oui, on est vraiment dans une logique d'excellence. C'est vraiment l'arrêté grec qui est en question.
Arrêté, c'est la vertu.
C'est la vertu qui ne se trouve que dans l'excellence. Peu de gens en sont capables. Et évidemment, il faut absolument se séparer de ce modèle courant, peut-être hérité d'Aristote, selon lequel la connaissance doit avoir pour fondement la mimésis, hein, l'imitation. La nature de l'homme est effectivement d'imiter, mais c'est justement le pire danger qu'il puisse connaître. Hein. S'il veut véritablement creuser sa condition humaine jusqu'à laisser épanouir en lui une manière d'être quasi divine et être comme un dieu parmi les hommes, il faut arriver à ne plus imiter, à sortir d'un mouvement général. Et ce mouvement général, on le voit, c'est la vie du forum que connaît Sénèque, la vie des hommes politiques, la vie de tout un chacun, du simple, du premier débauché.
La vie des hommes politiques, il faut préciser que celui à qui il adresse son discours est un homme politique.
Est un homme politique, effectivement, qui a une responsabilité administrative assez importante. Puisque Paulinus est préfet d'Adon,
Paulinus est le destinataire.
Voilà, très certainement son beau-père. Et ce destinataire est préfet de l'Annone, c'est-à-dire qu'il est chargé du ravitaillement en blé et en vivres de la ville de Rome. Donc c'est on pourrait dire que c'est une place cruciale, puisque dans le système impérial, il se retrouve pris entre, d'un côté, les exigences du prince, qui peuvent parfois être déraisonnables, hein. Sénèque parle de Caligula et de sa folie. Évidemment, on peut penser à Néron. Hein. On est encore un peu tôt dans la participation de Néron à la vie publique.
Je précise que Néron est la cause efficiente du suicide de Sénèque.
Voilà. Donc, le préfet de l'Annone est un petit peu le tampon entre l'empereur et de l'autre côté, le peuple. Hein, on pourrait dire, même comme Sénèque le présente, le ventre de l'humanité, ce peuple qui a faim et qu'il faut satisfaire. Donc à la fois arriver à satisfaire l'homme politique par excellence, le prince, et puis l'ensemble de la communauté. On peut dire que, ce faisant, c'est une des tâches les plus aliénantes qui soit, hein, puisqu'on est dans un perpétuel jeu de contradictions qui vous tire d'un côté et de l'autre.
Aliénante est à entendre ici quasiment au sens étymologique, c'est-à-dire que c'est vraiment celui qui dévoue son existence à autrui, qui consacre son existence à autrui, qui d'une certaine façon se laisse dévorer, qui se laisse dévorer par autrui. Mais dans le traité de la brièveté de la vie, il y a quelque chose qui me semble un paradoxe qu'il faut vraiment expliciter parce que on a là quelque chose de très fin, je crois. Dans un autre portrait qu'il fait des hommes qui se divertissent, il parle de ces occupations inactives, de tous ces gens dont on dit qu'ils sont oisifs, mais qui en fait sont oisifs pour la mauvaise cause. Mmh. L'oisif, c'est par exemple celui qui va chez le coiffeur, c'est celui qui va dans les salles de lutte, ou alors c'est celui qui, tordant sa voix, dont la nature a fixé le ton juste, s'exerce à chanter toute la journée. Donc, ça, c'est le mauvais oisif. C'est le portrait calamiteux de celui qui s'occupe, mais qui s'occupe comme on voudrait tuer le temps. Alors qu'il ne s'agit pas de tuer le temps, mais presque de renouer avec lui. Or, quand il dit cela, il dit « Qui parmi ces individus ne préfère pas qu'on trouble l'ordre public plutôt que leur coiffure ?» Ce qui rappelle le propos de Hume, qui disait « Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure de mon petit doigt. » Donc c'est ce qu'on appelle le solipsisme.
Tout à fait.
Ma douleur me concerne, la douleur d'autrui ne me concerne pas. Le mauvais oisif, c'est celui qui pense à lui, en gros, et qui ne pense qu'à lui. Mm-hmm. Alors Sénèque critique cette forme d'égoïsme supérieur qui consiste à se moquer du sort de ses contemporains et à ne penser qu'à soi. Et pourtant, à la fin de ce texte, il dit, parlant à Paulinus donc, et se référant à ses fonctions, « Mieux vaut connaître les comptes de sa propre vie que ceux des stocks publics de blé. » Alors, comment est-ce qu'il se contredit ou bien est-ce qu'il affine son propos? Comment est-ce qu'il peut critiquer à la fois ceux qui se moquent finalement de l'ordre public et en même temps dire « mieux vaut connaître les comptes de sa propre vie que ceux des stocks publics de blé »
Finalement, dans ces deux attitudes, qu'il s'agisse de ces entre guillemets, stars académiciens qui apprennent à tordre leur voix, à tordre en données naturelles qui leur fait défaut hein, pour arriver à quelque chose d'artificiel, qu'il s'agisse de ces gens qui vont faire le décompte de leurs cheveux, alors que le cheveu est le modèle même de la chose indifférente hein, dans le stoïcisme, le nombre de cheveux sur la tête chez le coiffeur, eh bien, ce genre d'attitude n'est pas moins critiquable que le fait d'administrer le ravitaillement de la cité, dans la mesure où, dans un cas comme dans l'autre, il y a une totale ignorance de sa propre vocation spirituelle, des propres nécessités que la nature nous a fixées. Et finalement, Paulinus, à partir du moment où il n'a pas encore, alors qu'il approche du terme de sa carrière, à partir du moment où il n'a pas encore pris la peine de se demander pourquoi il était sur Terre, comment il était sur Terre, et en quoi cette place nécessité de lui certains offices particuliers, eh bien, il n'est pas moins critiquable que ceux qui, finalement, s'occupent de leur bouclette. Hein. Il y a une pareille méconnaissance d'une vie selon la raison. Et d'une vie selon la raison, pour Sénèque, c'est une vie selon la nature. C'est la seule manière pour être heureux.
C'est-à-dire qu'on ne vit pas selon la raison quand on passe son temps à soigner ses bouclettes ou bien quand on passe son temps à s'occuper des stocks publics de blé.
Exactement. Enfin, c'est le...
Ce sont deux façons de ne pas vivre.
Ce sont deux façons de ne pas vivre et de méconnaître la fonction propre de la raison. La fonction propre de la raison qui est justement d'arriver à recontextualiser notre existence au sein d'un univers, hein, d'un enchaînement de causes et d'effets extrêmement complexes, arriver finalement à nous réinsérer dans la vie en nous faisant profiter des prédécesseurs, éventuellement les philosophes qui ont précédé dans les siècles passés, mais aussi en faisant bénéficier les autres en aval de cette expérience, il faut arriver à se jeter à corps perdu dans cette insertion cosmique, finalement se réapproprier sa propre existence.
Vous parlez d'insertion cosmique, là, il faut quand même préciser ce que c'est que l'ontologie des stoïciens, puisque pour un stoïcien, on conquiert sa liberté en adhérant à la nature, en renouant avec la nature qui nous constitue.
Exactement. La nature est une sorte de grande puissance organisatrice des choses entre elles, qui s'épand en permanence, qui soutient l'ensemble du monde et de ses constituants par une certaine tonicité interne, ce que les Grecs appellent le tonos, et cette nature qui soutient et fait vivre la matière par une sorte d'esprit, de souffle, le fameux pneuma, elle nous englobe. Hein. Simplement, deux manières de répondre à cet englobement, soit ne pas même le remarquer, c'est-à-dire ne pas faire l'usage de la raison qui nous permettrait de comprendre que nous sommes englobés dans ce vaste tout.
Ce qui voudrait dire, en termes spinozistes, se prendre pour un empire dans un empire.
Exactement. Hein, c'est exactement ce que font les hommes politiques mis en scène par Sénèque dans ce texte, hein, qui veulent réformer l'univers, qui veulent...
Du plus sage au plus fou, hein, que ce soit Auguste ou Caligula.
Et même Pompée, hein, qui décide de faire venir des éléphants dans un cirque pour leur faire affronter des prisonniers. Hein, donc une sorte de décontextualisation du vivant d'un espace à un autre qui n'a rien de naturel, eh bien, c'est une même manière tyrannique, effectivement, de se prendre pour le maître du monde alors qu'on est englobé dans une maîtrise du monde qui nous échappe. Qui nous échappe, mais justement, qu'une vie, selon la raison, peut nous permettre de saisir, et donc cette saisie rationnelle peut... Et c'est un degré supplémentaire d'adhésion, être la base d'un assentiment, hein, d'un assentiment à cet ordre naturel qui fonde la liberté humaine chez les stoïciens.
Est-ce que ça veut dire donc que pour les stoïciens, la maîtrise passe par le renoncement à une certaine forme de maîtrise, mais ce renoncement étant lui-même un assentiment, est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça? Être maître de son destin suppose qu'on renonce à faire ce qu'on veut?
Pas vraiment renoncer à faire ce qu'on veut, mais savoir qu'il y a des choses effectivement qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Et que la réussite de l'action vertueuse se joue véritablement non pas dans l'obtention du but qui nous échappera toujours et sur laquelle nous pouvons essayer de peser, mais de manière parfaitement incertaine. C'est le fameux scopos, le but qu'il s'agit d'atteindre. En revanche, le stoïcien prône que l'individu doit remplir son télos, sa fin, sa finalité interne, qui est de faire tout ce qu'il peut en son pouvoir pour agir droitement, avec une véritable rectitude et une véritable rationalité dans son geste.
Mais la rectitude n'est pas la rectitude arbitraire de celui qui se dresse contre l'ordre de la nature, en bombant le torse d'une certaine façon. Il n'y a pas d'arrogance dans cette rectitude.
Tout à fait.
Parce que la rectitude suppose, à vous entendre, on se dit que la rectitude suppose d'une certaine façon une véritable flexibilité, une vraie souplesse, justement.
En fait, il n'y a pas d'action vertueuse finalement possible s'il n'y a pas eu auparavant, compréhension du monde et compréhension de notre place. Il n'y a pas eu appropriation. C'est ce fameux terme d'oikeiosis, qu'on peut traduire par appropriation de soi-même par soi-même, familiarisation de soi avec soi, et qui fait qu'au terme de ce processus d'oikeiosis, nous possédons nous-mêmes et nous arrivons à nous recontextualiser au sein d'un tout. Évidemment, cela demande de nous connaître et de connaître ce tout. Donc des connaissances physiques importantes. Celui qui n'est pas prêt à faire le moindre apprentissage physique ou physiologique, naturaliste, ne pourra jamais véritablement atteindre la vertu.
Deux références qui viennent spontanément en vous écoutant. La première encore, c'est Spinoza, qui... à bien des aspects, à bien des titres, est proche des stoïciens, même si naturellement il ne s'y réduit pas. C'est Spinoza, l'idée que la connaissance nous éloigne du sentiment que nous sommes l'origine radicale de nos actes. Plus on connaît, moins on se prend pour la seule origine de ce que nous faisons. Et la deuxième, c'est une phrase de Confucius qui dit « Quelle vanité de vouloir atteindre la cible. L'important n'est pas d'atteindre la cible, mais, dit-il, la rectitude du geste. »
Oui. Ah oui, on pourrait penser aussi à Montaigne. L'important n'est pas la prise, mais la chasse, effectivement.
C'est-à-dire que ce qui compte, c'est une certaine forme de discipline, où le but importe moins que la finalité.
Que la finalité, exactement.
Mais la différence entre but et finalité est une différence subtile.
Oui, elle est fondamentale pour notre traité dans la mesure où ce qui nous fait méconnaître véritablement les données fondamentales de notre vie et de notre action, ce qui nous fait méconnaître le temps, c'est cet attachement au but, au scopos. C'est d'être toujours projeté dans l'avenir par crainte justement de ne pas obtenir ce qu'on veut ou une fois qu'on l'aura obtenu, par crainte de ne pas pouvoir pérenniser sa possession. Par crainte d'être tout de suite dépossédé.
Par crainte, tout simplement.
Par crainte. Par peur de la mort, notamment, c'est ce que Sénèque nous explique. À partir du moment où nous vivons dans la crainte, dans la peur de la mort, nous ne voulons plus voir la mort en face. À partir de là, nous forgeons une sorte de scénario lénifiant qui nous aide à vivre et qui nous aide à continuer cette vie frénétique, qui est celui de la survie. Et l'on fait des projets. Je prendrai ma retraite, quand ça sera l'âge de la retraite. Quand l'âge fixé par la loi arrivera. Or, bien évidemment, nul ne peut nous dire si nous arriverons à cet âge fixé par la loi positive.
Oui, Sénèque dit « N'est-il pas fort tard de commencer à vivre au moment où il faut s'arrêter ?» Il est tout à fait partisan d'avancer l'âge de la retraite. C'est bonjour paresse, d'une certaine façon.
Sénèque, dès le début de ce petit traité, aime à confondre le vieillard. Le vieillard sur le forum, qui finalement est aussi puéril que l'enfant. Il n'a même pas commencé à vivre. Et le texte s'achève sur cette image magnifique de tous ces gens enterrés en grande pompe et qui devraient être enterrés selon un rite particulier à la lumière des cierges, qui est réservé aux enfants mort-nés, c'est-à-dire à ceux qui meurent avant même d'avoir vécu.
Avant d'avoir vécu. Ouais. Il dit « Nous voyons que tu es parvenu au point ultime de l'existence humaine, tu portes la marque de la 100e année, rappelle ton âge pour en faire le décompte, compte en le soustrayant à ce temps tout ce qu'un créancier, tout ce qu'une maîtresse, tout ce qu'un roi, tout ce qu'un client t'a arraché, et tu comprendras que tu meurs prématurément. »
Prématurément.
Le vieillard peut mourir prématurément. On peut vivre 100 ans et avoir une vie très brève. L'homme qui passe une centaine d'années sur Terre à essayer d'oublier que sa vie va s'achever et donc à perdre son temps, à vouloir le tuer, cet homme-là vit moins que Rimbaud ou Radiguet.
Exactement, c'est ce que je voulais vous dire en vous écoutant, c'est que inversement, on peut vivre très peu et avoir beaucoup vécu. Il suffit d'un moment de vie vertueuse, d'un moment d'illumination pour contrebalancer toute une vie d'errance, pour être finalement disponible à la mort. À partir du moment où l'on ne peut pas améliorer le bien dans le système stoïcien, le bien est un optimum qui ne peut être susceptible d'être diminué ou augmenté. À partir du moment où il a été obtenu, on peut sortir de la pièce heureux et la tête haute. La métaphore du bateau est très intéressante pour revenir à cette question. Métaphore qui est posée au chapitre 7 du traité, c'est ce bateau qui, à peine sorti du port, se retrouve quasiment à l'intérieur du port lui-même, pris par des vents contraires, par une sorte de tempête proche du littoral, et qui ne cesse de tourner en rond. Évidemment, ces tempêtes, ces mouvements climatiques désordonnés sont des métaphores pour nous parler des passions, de ces agitations internes qui nous maintiennent sur de mauvais objectifs, et qui, effectivement, nous enferme dans une sorte d'expérience de la répétition du même. On reste enfermé dans une sorte de surplace. Et ce bateau qui tourne en rond, comme le dit Sénèque, a beaucoup navigué, il n'a pas beaucoup voyagé. Et de la même manière, quelqu'un peut avoir beaucoup existé, il n'aura pas beaucoup vécu.
Seuls entre tous sont oisifs ceux qui se consacrent à la sagesse. Seuls ils vivent. Car ils ne préservent pas bien leur temps uniquement. Ils ajoutent toute époque à la leur. Toutes les années qui ont pu se passer avant eux leur sont acquises. Si nous sommes amenés vers des révélations de la plus haute beauté, c'est parce qu'elles ont été exhumées et tirées au jour par le labeur d'un autre. Aucun siècle ne nous est interdit. Dans tous, nous sommes admis. Et si nous trouvons bon que la grandeur d'âme dépasse les étroites bornes de l'humaine faiblesse, nous avons beaucoup de temps à parcourir.
Le sceptique reste fondamentalement rivé aux apparences, aux phénomènes. Et donc, c'est le propre de Piron de ne jamais se départir d'une attention directe à la vie. Donc, effectivement, ces philosophies hellénistiques, toutes cherchent à nous recentrer sur le présent, qui, bien sûr, est la condition de possibilité de l'accès à la sagesse. C'est ce que nous dit Sénèque. Si l'on se laisse enchaîner par l'attention au futur, on perd toute occasion finalement de faire la comptabilité de notre passé, c'est-à-dire de regarder derrière nous, de regarder là où ça fait mal, l'ensemble des épisodes de notre vie, ce qui pourrait nous permettre de nous convertir à une vie selon la raison.
Oui, mais est-ce que c'est pas contradictoire ça, pardon? Parce qu'effectivement, après nous avoir dit « ne perds pas ton temps, c'est ici que ça se passe et c'est maintenant d'une certaine façon, donc vis ». Et en même temps, il dit « ceux qui vivent toute la journée, que ce soit le préfet ou que ce soit la coquette ou le coquet qui se fait couper les cheveux tous les matins, quel que soit celui que Sénèque vise dans ses diatribes contre ceux qui se divertissent, on peut considérer qu'ils sont d'une certaine façon prisonniers du présent. Or, ceux qui sont prisonniers du présent, il dit ensuite, leur vie s'en va donc à l'abîme, et de même qu'il est inutile de remplir autant qu'on veut s'il n'y a rien pour accueillir et conserver, de même, peu importe combien de temps est donné, s'il n'a rien où se déposer, il passe à travers les esprits brisés et percés. Mmh. Et il en appelle à ce moment-là au souvenir, au ressouvenir. C'est pas paradoxal, cet éloge du présent, qui est en même temps une critique de ceux qui se perdent dans le présent et qui oublient de se souvenir de ce qu'ils ont fait?
Oui. Alors, on pourrait dire plusieurs choses. Tout d'abord, cette attention au présent que prône Sénèque, évidemment, n'a strictement rien à voir avec le coquet, l'amateur d'art qui passe sa vie à faire les ventes aux enchères pour collectionner les vases précieux. Ce que nous dit Sénèque dans le passage que vous venez de lire, c'est que finalement, il faut arriver à annuler en nous toutes ces brèches, toutes ces fêlures de l'âme qui font que nous laissons non seulement les mauvaises passions nous envahir, mais surtout nous laissons les autres nous investir. Le problème de ces gens-là, on peut penser, je reprends les coquets, par exemple l'exemple des coquets qui passent leur temps dans les salons, ou ceux qui passent leur temps à collectionner les anecdotes ou les considérations érudites, ce sont des gens qui rentrent dans une dynamique sociale de prestige, qui sont totalement...
Et de représentation,
qui sont totalement aliénés au regard des autres. Et finalement, leur vice s'explique par la nécessité de devoir se valoriser. Et finalement, leur vice devient spectaculaire. Ce qui est très frappant dans ce traité sur la brièveté de la vie, c'est que le vice est décrit comme un spectacle. Spectacle, on pourrait dire, au quotidien, le simple fait d'aller préparer l'ordonnancement de ses bouclettes sur sa tête chez son coiffeur et y passer des heures, mais aussi spectacle organisé par exemple par Sylla ou par Pompée en faisant lâcher les lions ou les éléphants sur des hommes. Le vice rentre donc dans une sorte de spectacularisation et on pourrait dire, qu'est-ce qu'on en attend? Évidemment, la considération du public. Alors ces gens-là sont effectivement enfermés dans ce type d'attitude. Le présent et l'attention au présent que demande Sénèque en revanche doit bien sûr être une attitude qui, elle, ne laisse aucune place aux passions, mais véritablement, qui doit être fondée sur une approche rationnelle du monde et sur une, non pas une approche immédiate, une approche qui serait celle de la convention, de la dynamique sociale. Ce sont ces gens qui sont perdus dans le temps. Et pour quitter finalement ce type de comportement, il faut arriver à véritablement interpréter les apparences. Le traité s'achève sur ce type d'image. Quand tu verras quelqu'un revêtir à plusieurs reprises la toge prétexte, c'est-à-dire la toge que l'on porte quand on prend en charge une magistrature, eh bien, ne sombre pas dans les passions, ne sombre pas dans la jalousie, il n'y a pas de quoi être jaloux. Ce sont des gens qui ont perdu leur vie. Tu as compris, à présent, au terme de cet exercice spirituel que tu viens d'effectuer avec moi, tu as compris que ces gens ont perdu leur vie et sont plus à plaindre qu'autre chose.
Celui qui a beaucoup convoité avec ambition et qui a méprisé avec superbe, qui a vaincu dans la violence débridée et a trompé avec perfidie, qui a fait main basse avec cupidité et a dissipé en prodigue, redoute nécessairement ses propres souvenirs. Or voilà la seule partie de notre vie qui soit sacrée et consacrée, qui ait dépassé tous les hasards de l'humaine condition, qui ait été soustraite à l'empire de la fortune, que ni la pauvreté, ni la crainte, ni l'attaque des maladies n'agitent. Elle ne peut être ni troublée, ni arrachée. Perpétuelle et sans effroi est sa possession. Les jours ne sont présents seulement qu'un par un et chacun d'entre eux n'est présent qu'à travers des moments. Au contraire, tous les jours du passé se présenteront si tu les convoques. Ils supporteront d'être inspectés et détenus par ton jugement, ce que les gens occupés n'ont pas le loisir de faire.
Revenons un instant sur ce qu'il dit de quand il distingue la vie et le temps. On a le sentiment qu'il y a chez Sénèque un refus semblable, donc détenant de l'au-delà, de la vie après la mort. Et les hédonistes de l'autre côté, qui, du point de vue de Sénèque, vivent avec angoisse chaque instant comme s'il était le dernier, non ? Est-ce que ce parallèle est justifié ? Parce qu'en général, l'hédoniste s'oppose aux partisans de l'au-delà en disant « mais vous avez la tête dans les nuages alors que c'est ici-bas et maintenant seulement qu'on peut prétendre au bonheur » et le tenant de l'au-delà dit à l'hédoniste « vous vous perdez dans des choses futiles et dans des corps provisoires » alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est la beauté dont les corps qui vous fascinent ne sont que l'expression temporaire. Mmh.
Dans un cas comme dans l'autre, nous ne sommes pas focalisés véritablement sur le présent, dans la mesure où bien, ceux qui préparent leur vie et sont rivés sur l'au-delà sortent véritablement des frontières du présent et refusent de créer ces frontières en investissant la temporalité par une action véritable, hein, comme ces hédonistes qui rentrent dans un régime, et ça, Sénèque le stigmatise aussi bien ici que dans La vie heureuse, rentrent dans un régime de pléonexie, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais assez, il en faut toujours plus.
Oui, parce que ce que dit, de la même façon, je précise, pardon, oui. Que le traité de la brièveté de la vie enseigne que la vie est longue à qui sait vivre, et le traité de la vie heureuse enseigne que le bonheur n'est pas la fin ultime.
Tout à fait. Oui. Cette recherche du plaisir, cet hédonisme, se caractérise en permanence par la peur de la perte de la jouissance. C'est un premier point. Donc, volonté de pérenniser le plaisir, volonté aussi frénétique d'en changer, hein, inconstance aussi bien du destin qui nous décale d'une occupation sur une autre, mais aussi inconstance du désir.
Parce que le paradoxe de la recherche du plaisir, c'est que la volonté de pérenniser le plaisir passe justement par la modification constante de l'objet qui nous fournit le plaisir.
Voilà, tout à fait, parce qu'on sait que ça ne marche pas, en définitive. Et dernier problème lié à cette recherche frénétique du plaisir, c'est que plus le désir est fort, plus la déception, évidemment, est grande. C'est ce que Sénèque souligne. Et le dégoût arrive très rapidement. Il est à la mesure de l'attente et du désir échafaudé. Et à partir de là, on veut absolument passer à autre chose.
En quoi apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir ? On pourrait objecter que apprendre à vivre, c'est savoir toute la vie, ne pas penser qu'on va mourir. En quoi apprendre à vivre signifie-t-il qu'on apprend à mourir ? En quoi les deux sont-ils synonymes ?
Si la mort est susceptible d'un apprentissage, d'une connaissance, d'un savoir, c'est que toutes les morts ne sont pas équivalentes. Et il y a beaucoup de morts, et même de morts violentes, qui sont mises en scène dans ce court traité, et notamment des morts par suicide. C'est assez étonnant de voir que le suicide, qui pourtant dans le stoïcisme est quelque chose d'extrêmement positif, hein, c'est un petit peu l'acmé de la sagesse, hein, le point d'orgue d'une vie de sagesse. Une fois qu'on a atteint l'optimum de sagesse, on peut quitter la scène. Eh bien, l'ensemble des gens qui se suicident ou qui sont suicidés dans ce texte sont des gens qui sont pris dans la tourmente des passions, qui sont pris dans une sorte de... et la plupart du temps dans la guerre civile. Hein. Ce sont toujours des figures, qu'il s'agisse de Cicéron, qu'il s'agisse de Pompée,
de Caton
qui n'apparaît pas ici, mais en tout cas de Livius Revusus qui apparaît dans ce texte. Tous ces gens qui finissent par se suicider ont fomenté la sédition et ont participé à une sorte de désorganisation de l'unité. Et cette guerre civile, dans l'ensemble du texte, c'est véritablement une image de cette rupture de l'unité, unité naturelle, hein, qui est véritablement la cohésion qu'il faut réussir à non seulement concevoir et dans un deuxième temps à laquelle il faut absolument assentir. Chaque rupture de cette cohésion, chaque retournement de la nature contre elle-même est un véritable crime. Donc l'ensemble de ces morts sont des morts irrationnelles, des morts liées à la passion, à le résultat d'une vie de passion, d'une vie passionnelle, d'une vie aliénée. Et la véritable manière de mourir, on pourrait dire vertueusement, hein, elle est bien sûr liée à une vie selon la raison, à une vie durant laquelle on a réussi, à un moment donné, à se hisser à ce point de vue divin sur le monde et sur sa propre existence et à agir véritablement droitement.
Mais attendez, moi je suis élève en terminale.
Oui.
Je suis un élève consciencieux, j'ai un cours sur les stoïciens, oui. On m'explique que le suicide est une reprise en main d'une certaine façon de son destin, ou en tout cas l'affirmation de son indépendance d'une certaine manière et de sa liberté. J'ai un cours sur Spinoza juste après, qui m'explique que sous cette apparente affirmation de liberté, il y a encore de l'arrogance humaine et qu'en définitive, celui qui pense en se suicidant récupérer sa liberté, son autonomie, son indépendance, eh bien celui-là ne fait que rendre les armes devant un ensemble de causes qui l'écrase et auxquelles il n'a pas la force de comprendre ce qui le porte à ce geste-là. En quoi Sénèque, donnant des exemples de suicides qui sont irrationnels, demeure-t-il du côté du suicide que lui-même a été d'ailleurs contraint de faire ?
Je parlais de véritablement de contre-exemples ici, quand il s'agissait de Pompée, de Livius Drusus. À chaque fois, il s'agit pour ces gens-là, et de manière parfaitement illusoire, effectivement, comme vous le dites très bien, de récupérer une liberté qu'ils ont perdue, et parfois dès l'enfance. Livius Drusus, nous dit le texte, n'a jamais eu de temps pour lui, jamais eu de vacances. Dès l'âge de 10 ans, il était sur le forum, pressé entre 36 clients, à essayer de plaider des causes, etc., et à fomenter des séditions. Donc, en définitive, ces gens-là essaient effectivement de se ressaisir. Mais le sage stoïcien, lorsqu'il se suicide, ne se ressaisit pas. Il s'est parfaitement saisi auparavant, justement par l'usage de la raison. Il a réussi à réinsérer parfaitement sa vie dans un dynamisme d'ensemble, et ayant réussi cette insertion, voyant que la destinée ne le réclame pas ailleurs, parce qu'on ne peut pas se suicider n'importe quand, n'importe comment. Il faut, et ce que nous dit Sénèque, ce n'est pas de nous désengager dès qu'il y a une difficulté ou dès qu'on a réussi, ou on a le sentiment d'avoir réussi notre vie. Il faut répondre aux exigences de la destinée. En revanche, il y a des moments où les données de l'expérience ne nous permettent plus de vivre de manière rationnelle. Et là, le sage ne peut plus effectuer son office, il peut, et on pourrait même dire qu'il doit sortir de la vie.
Chez Cioran, la vie, justement, par cette habitude que nous prenons du néant, est définie comme un état de non-suicide. On s'habitue à vivre, c'est-à-dire qu'on s'habitue à être ces morts vivants. Bon. Mm-hmm. Et il y a chez Cioran une façon chez l'homme d'ajourner en permanence le moment du suicide. Le suicide est un geste constamment ajourné. Il dit on se suicide toujours trop tard. L'idéal eût été de dénaître chez Cioran, de ne pas naître. Vivre, c'est être déjà de trop. On se suicide toujours trop tard et donc en définitive, on ajourne constamment le suicide. On prend l'habitude de cette existence qui se traîne comme des charognes cosmiques, dit le Roumain. Mais c'est intéressant parce que Cioran parle du suicide comme d'un geste ajourné. De la même façon que Sénèque, lui, parle de l'oisiveté noble, la véritable détente que nous ajournons justement au quotidien, en retardant constamment le moment de vivre et en se grisant qu'un jour, on pourra enfin profiter du travail accumulé qu'on pourra laisser derrière soi.
Exactement. Ce qui est intéressant avec l'exemple d'Auguste, c'est que nous avons affaire ici avec quasiment le seul exemple mis en scène par Sénèque, de personnage aliéné, mais qui est conscient de son aliénation. Et ce qui est pathétique chez lui, c'est véritablement la preuve suprême que Sénèque peut apporter de notre condition, c'est de voir un homme qui agite cette fiction d'otium, cette fiction de retraite.
Otium, c'est l'oisiveté,
c'est
la
l'oisiveté,
retraite.
La retraite, voilà. Qui agite cette fiction, certainement pas de manière thérapeutique, pour se soigner parce qu'il ne le peut pas, mais au moins de manière lénifiante, pour adoucir sa propre existence, tout en sachant que ce n'est qu'une fiction. C'est un petit peu ce que les théoriciens modernes de la fiction appellent la feintise ludique. On adhère à la fiction tout en sachant que ce n'est qu'une fiction.
Ce sont les enfants qui font ça.
Ce sont les enfants.
Les enfants jouent à ça constamment. Les enfants jouent à se prendre pour Dark Vador, tout en sachant pertinemment, même à 4 ans, qu'ils ne le sont pas.
Et inversement, Dark Vador, ici l'empereur Auguste, passe son temps à se prendre pour un enfant qui a du temps pour penser à soi.
Et qui remet à plus tard le moment d'en profiter.
Le moment d'en profiter. Et bien évidemment, les choses se terminent très mal pour lui.
C'est d'un jour qu'on te parle. Et de celui-là même qui est en train de s'enfuir. De la même manière qu'une conversation, une lecture ou quelque intense méditation trompe celui qui chemine et qui se voit arriver avant d'avoir su qu'il s'approchait du but, le voyage de la vie, ininterrompu et d'une extrême rapidité, que nous accomplissons du même pas en état de veille comme de sommeil, n'apparaît pas aux gens occupés, si ce n'est lorsqu'il s'achève.
Quand Sénèque parle du présent, le présent est à la fois l'objet unique, exclusif, des gens occupés, des gens qui s'occupent, des gens qui se distraient, des gens qui se divertissent. Et le présent est en même temps la seule condition d'une vie pleinement vécue. Est-ce qu'on peut qualifier la position de Sénèque d'inactuelle, au sens quasiment nietzschéen du terme? C'est-à-dire, vous avez d'un côté celui qui a le nez dans le guidon, de l'autre celui qui a la tête en l'air, et puis au milieu, Sénèque, qui pédale, puisqu'il vit, naturellement, mais qui, tout en pédalant, n'oublie pas de regarder le paysage.
Oui. Ce rapport au présent, j'espère vous répondre exactement, que prône de la brièveté de la vie, c'est une manière finalement de borner ce qui est informe, hein, de borner une sorte d'écoulement temporel qui est absolument silencieux, qui ne nous attend pas, qui s'écoule sans que nous en ayons conscience et qui ne nous prévient pas lorsque notre dernier moment est arrivé, hein, il est déjà trop tard. Or, dans le système stoïcien et chez les précurseurs notamment grecs de Sénèque, la conception du temps, c'est que seul le présent existe. Hein, et le présent, c'est une unité, un intervalle, c'est l'intervalle du mouvement, c'est-à-dire c'est la dimension exacte qu'un acte, c'est-à-dire une mise en mouvement, qu'un acte vient poser. Chaque acte vient instaurer une sorte de séparation physique en amont et en aval, hein, et vient finalement borner le temps d'un côté et de l'autre. Tandis que le passé, lui, n'a pas de borne en amont, tout comme l'avenir, lui, n'a pas de borne en aval. Ces deux temps, chez les stoïciens, n'existent pas, ils subsistent. En revanche, le présent existe parce que véritablement, il vient s'effectuer à la faveur d'un acte bien concret. Qu'il s'agisse de l'acte général et universel qui est celui de Dieu en expansion dans le cycle cosmique, ou qu'il s'agisse d'un acte rationnel fait par le sage ou d'un exercice spirituel tel celui que nous lisons.
Donc là, on a les moyens de comprendre ce qui distingue l'homme qui se divertit de l'homme à qui Sénèque conseille de vivre au présent, puisque ce ne sont pas les mêmes, justement. C'est même le contraire. Mmh. On pourrait se dire, donc, c'est un paradoxe autour duquel on tourne depuis tout à l'heure, mais on pourrait se dire qu'après tout, celui qui vit au présent, c'est celui qui se divertit. Mais non, il y a mieux que ça. Il y a d'une certaine façon mieux à faire qu'à se divertir, car ce que vous dites du présent permet de penser que dans la vie, il y a ce que nous faisons, ce que nous avons fait, qu'on peut mesurer d'une certaine façon, qui peut faire l'objet d'un regard quantitatif, qu'on peut évaluer. Mmh. Et il y a le geste lui-même en train de s'effectuer, qui celui-là, la beauté du geste d'une certaine façon, qui celui-là se donne à penser de façon essentiellement qualitative et qui n'existe qu'à l'intérieur du présent.
Exactement.
C'est ça qui est en jeu ici.
C'est effectivement ça qui est en jeu. C'est celui qui déploie une action qui va effectivement fonder un présent, mais une action qui n'est pas étanche, qui n'est pas bornée, qui n'est pas fermée sur elle-même, qui déborde toujours sur le futur, hein, qui est en attente toujours d'autre chose et de quelque chose qui ne dépend pas de la personne.
C'est celui qui préfère la cible au geste de l'archer.
Voilà.
Or, le geste de l'archer, c'est l'instant présent. C'est le présent, mais le présent véritablement vécu. Pas le présent qu'on vit pour oublier le lendemain.
Ou pour accéder à quelque chose qu'on aura justement le lendemain.
Ce qui permet de comprendre que quand on vit pleinement, donc une vie vraiment vécue, est une vie qui n'est pas passée à oublier le lendemain ou alors à spéculer sur le lendemain. Finalement, spéculer sur les dividendes d'une action présente ou bien vivre, se saouler pour oublier le lendemain de cuite, d'une certaine façon, c'est la même chose.
Exactement, c'est la même chose. Tout comme préparer l'action suivante en essayant de prévoir tous ses paramètres, en essayant de prendre ce que j'appelle des assurances-vie, hein, c'est-à-dire au lieu de vivre, essayer de préparer l'action suivante, c'est une manière aussi effectivement de perdre son temps.
Personne ne regarde la mort en face. Absolument tout le monde étend au loin ses espérances. Certains organisent voire même ce qui concerne l'au-delà de cette vie. L'énorme masse des tombeaux, les dédicaces des édifices publics, les jeux avoisinant le bûcher, le faste des obsèques. Mais par Hercule, les funérailles de ces individus doivent être conduites à la lumière des torches et des cierges, comme s'ils avaient très peu vécu.
Voilà, vous venez d'entendre la rediffusion d'une émission sur Sénèque, son texte sur la brièveté de la vie,
dans les Vendredis de la philosophie, l'émission Commentaire, une émission réalisée à l'époque, en 2006, par l'exquise Brigitte Bouvier. Demain, les nouveaux chemins de la connaissance reprennent leur marche quotidienne et poursuivent cette traversée du stoïcisme, puisque nous accueillerons Frédéric Ildefons, chargé de recherche au CNRS, auteur d'un livre, notamment aux belles lettres, sur les stoïciens, et en compagnie de qui nous parlerons de l'ancien stoïcisme. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, la parole est au stoïque Albert Jacquard.